Il y a quelque chose de bizarre dans ce tableau, et moi, dans l'art, j'adore le bizarre.
Voilà. On a des collections assez vastes, hein, vous l'aurez compris, le musée est très grand. Alors la situation la plus délicate, c'est de ne pas parvenir à renseigner un visiteur sur la présence ou non d'une œuvre. Surtout qu'on a des jeunes conservateurs qui s'amusent à les changer de place assez souvent.
D'accord.
La régie des œuvres, c'est... on sait comment commence la journée, on ne sait jamais comment elle finit. Souvent sur les rotules, mais bon, au moins, voilà.
Jeune reporter au musée. Réalisé par les premières maintenances et productions du lycée Pierre Mendès France à Montpellier.
Bonjour, nous sommes une classe du lycée Pierre Mendès France, en classe de première maintenance et pilotage de lignes de production. Notre première visite a eu lieu le 7 décembre 2021. On a rencontré les œuvres du musée grâce à la médiatrice Madame Chaplin.
Il a des explications qui rendent la visite très agréable et très intéressante. On peut trouver des peintures telles que La rencontre de Gustave Courbet. C'est d'ailleurs l'œuvre la plus chère du musée.
Lors de la visite, on a pu connaître l'histoire du musée et le fondateur du musée, François-Xavier Fabre. Elle nous a aussi parlé de la valeur des tableaux et des différentes façons d'acquérir un tableau pour un musée. On peut citer par exemple les dons des entreprises privées ou encore l'aide de l'agglomération de Montpellier. Avec Molly, médiatrice et plasticienne, on a observé les diagonales, c'est-à-dire les lignes de construction et aussi la spirale du nombre d'or. Nous avons découvert Yan Pingming, un peintre d'origine chinoise qui vit en France depuis longtemps. Il a fait un dépôt de son œuvre créée spécialement pour le musée Fabre. Elle s'appelle L'impossible rencontre, inspirée du célèbre peintre Courbet. Le musée Fabre vient tout juste de l'acquérir en ouvrant une participation au public pour compléter l'aide de la métropole.
N'oublions pas non plus la sécurité. On voit bien que nous et les œuvres d'art sommes en lieu sûr puisque les gardiens sont chargés de surveiller et de maintenir l'ordre. Depuis l'entrée de ce musée où se trouve un autre agent de sécurité qui nous demande nos passes sanitaires et se charge de nous fouiller, jusqu'aux salles d'exposition où un gardien surveille notre patrimoine commun et évite tout accident. Bref, une visite super agréable grâce à toutes ces personnes. Je recommande vivement à tout le monde.
Madame Bouquezoula, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agent d'accueil au musée Fabre. En quoi consiste votre métier ?
Alors, nous, notre mission première, c'est d'accueillir le visiteur, de le renseigner, de l'orienter. On fait partie vraiment de l'accueil du musée, au même titre que le hall Buren.
Comment sont accueillis les visiteurs ?
Bien, j'espère. Ils commencent la visite du musée déjà par l'entrée, qui est une très jolie porte. Et puis, on rentre directement donc, dans le hall Buren, qui est l'œuvre réalisée par Daniel Buren.
D'accord.
Donc, la visite commence déjà avant même de rentrer dans le musée.
Avez-vous connu des situations délicates dans votre métier ? Et si oui, racontez-nous l'une d'elles.
On a la chance d'avoir un public quand même très agréable, puis souvent passionné. Donc la difficulté, surtout nous on a des collections assez vastes, hein, vous l'aurez compris, le musée est très grand. Donc malheureusement on ne connaît pas toutes les œuvres. Alors la situation la plus délicate, c'est de ne pas parvenir à renseigner un visiteur sur la présence ou non d'une œuvre. Surtout qu'on a des jeunes conservateurs qui s'amusent à les changer de place assez souvent.
D'accord. Pourquoi vous avez choisi ce métier et depuis combien de temps l'exercez-vous ?
Par amour pour l'art et la ville de Montpellier, tout d'abord. Et là, ça fait 2 ans maintenant que je suis dans l'équipe du musée Fabre.
Quel a été votre parcours scolaire pour atteindre cet emploi ?
Alors, moi, je suis autodidacte. J'ai allé jusqu'au baccalauréat, mais je n'ai pas poursuivi d'études supérieures. Les connaissances que j'ai acquises là-dedans, c'était grâce au milieu associatif notamment.
Ce métier vous plaît-il toujours autant ?
Oui, beaucoup.
Et depuis la crise du Covid, les consignes sanitaires ont changé. Comment vous vous êtes adapté ?
Alors nous, au niveau de l'accueil, ce qui a le plus changé, c'est le port du masque, hein, le plexi. Donc on a eu un peu plus de mal à communiquer avec le visiteur, mais simplement à part les mesures sanitaires, rien n'a changé.
Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions.
Avec plaisir, merci à vous.
Bonjour, moi je suis Randy.
Bonjour Randy.
Bonjour. Et vous, vous êtes Madame Magali Robert Frété et vous êtes régisseur de ce musée.
Je suis régisseur des collections permanentes, oui.
En quoi consiste votre métier ?
Alors, le régisseur d'un musée coordonne les déplacements des œuvres internes et externes du musée sur le plan financier, juridique, administratif et physique. Voilà. En fait, pour plus de précision, au musée, nous sommes deux régisseurs. Donc, il y a une régisseur qui s'occupe uniquement des expositions temporaires. Et moi, je suis la régisseur chargée des collections permanentes. Donc, tout ce qui correspond aux œuvres dans les 52 salles que vous connaissez peut-être. Donc, les 9000 mètres carrés de salles. Celles qui sont en réserve aussi, également. Et les dépôts au musée. Puisque les grands établissements nous déposent des œuvres, soit parce que c'est un choix de leur part. Avant, c'était le cas d'envoyer des œuvres en province, en région, comme ils aiment bien dire maintenant. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu tendance à les garder, soit parce qu'on a des trous dans les collections, en particulier les collections modernes. Donc là, dans la salle des modernes, si vous allez, salle 42 exactement, vous verrez que la plupart des murs sont occupés par des œuvres qui viennent du centre Pompidou, parce qu'on a très, enfin, ce sont des œuvres qui sont assez chères et qu'on n'arrive pas forcément à acquérir. Ou alors, voilà, au compte-gouttes, donc on commence à acquérir.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors, ça ne s'est pas fait tout seul. Alors, je ne suis pas complètement autodidacte, mais pas loin, puisque en fait, donc, j'ai fait mes études il y a 20 ans. J'ai fait donc, un bac économique, tout ce qu'il y a de plus lambda, qui n'a rien à voir avec l'art. J'ai lu un ouvrage de Christian Jacques à l'époque et j'ai vu qu'il était égyptologue derrière. Du coup, je l'ai écrit et il m'a expliqué comment faire des études là-dedans. Donc j'ai commencé, j'ai fait un bac plus 3 en archéologie. Après, j'ai migré vraiment sur l'archéologie égyptienne. Au fur et à mesure, en travaillant dans le monde de la culture, j'ai découvert des nouveaux métiers parce qu'il y a énormément de métiers qui sont totalement inconnus du public. Moi, je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Et donc, c'est en faisant des rencontres, en discutant par le réseau, que j'ai découvert ce métier et je me suis formée sur le tas. En fait.
C'est venu comme ça ?
C'est venu comme ça, exactement.
D'accord. Dans quel autre musée avez-vous travaillé ?
J'ai un DEA en archéologie égyptienne, donc un bac plus 5. En fait, maintenant, c'est un master 2, c'est l'équivalent du master 2. Et j'ai commencé à travailler en musée et bibliothèque. Après, j'ai fait un petit passage au musée du Louvre, dans la section copte du département égyptien. Ça, c'était mon petit plaisir. Et puis après, j'ai voulu revenir parce que c'est à Montpellier que j'ai fait mes études et je tenais à travailler à Montpellier et pas à rester à Paris. Je pense que certains le comprendront. Voilà, j'ai fait un petit passage à Paris, j'en ai profité. Mais bon, pour la vie de tous les jours, c'est quand même plus agréable Montpellier. Donc du coup, je suis redescendue et j'ai travaillé dans un musée qui n'a pas ouvert et qui peut-être va réouvrir. Le musée d'histoire de la France et de l'Algérie, où j'ai plus ou moins fabriqué mon poste idéal, puisque je suis rentrée en m'occupant de la documentation, et petit à petit, j'ai migré plutôt vers les œuvres qui me correspondaient plus. Et cet établissement n'a pas ouvert en 2014, comme c'était prévu, et du coup, j'ai migré au musée Fabre, où on m'a mis sur le poste de régisseur. Enfin, voilà, pareil, je suis arrivée avec mon poste. Parce que ma collègue était toute seule et que déjà qu'on a du travail pour quatre. Donc là, toute seule sur ce poste, c'était vraiment une horreur. Elle faisait et expo et collection permanente. Donc j'ai travaillé au MHFA, et musée du Louvre, au MHFA et maintenant au musée Fabre.
Depuis combien d'années travaillez-vous dans ce musée ?
Donc je suis arrivée fin 2014. Et donc ça va faire 8 ans. Ça a fait 8 ans, c'est ça ? Oui, je pense, oui.
Pouvez-vous nous expliquer comment on manipule un tableau ?
Alors déjà, en général, avec des gants, on essaie. Alors il y a plein de types d'œuvres différents dans le musée. Vous avez dû voir, dans la partie contemporaine, il peut y avoir des toiles libres qui se promènent au gré du vent. Ça fait partie de l'œuvre. Bon, ça, c'est simple, c'est léger, on peut les manipuler relativement facilement. Après, on part sur des œuvres toujours dans l'art contemporain, sans cadre. Donc là, c'est terrible parce qu'il peut y avoir de la peinture sur les côtés. Donc il faut vraiment avoir des gants et faire très attention pour pas abîmer les bords. Et ensuite, on part sur des collections un peu plus anciennes, soit avec des cadres. Alors, sur les collections contemporaines, on en a également. Mais soit avec des cadres peints. Donc là, il n'y a pas de risque. On peut même les attraper avec les mêmes. Mais bon, on essaie toujours au moins d'avoir les mêmes propres quand même, pour pas faire de traces. Soit des vieux cadres dorés. Et là, ceux-là, si on touche sans gants, en fait, on laisse la trace de nos doigts dessus. Mais vraiment, on peut quasiment recoller, savoir qui a touché le tableau à quel moment. Donc voilà, donc déjà avec des gants. Ensuite, des gants propres aussi, parce que des fois, on aurait tendance à attraper ceux qui ont servi à gratter les murs, etc. Mais non, il vaut mieux avoir des gants propres. Et ensuite, ben, quand on attrape un tableau, toujours les mains sur les côtés. Et dès qu'il est un petit peu grand, on est à deux personnes. À ce moment-là, c'est une main sur le côté et une main en dessous. Et donc, toujours les gens face à face. Après, pour les sculptures, c'est des problèmes à chaque fois, selon l'œuvre. C'est toujours différent, en fait. Il y a des choses très légères qui sont très grandes, donc il faut juste les empêcher de basculer. Il y a des choses très grandes, très lourdes, ou toutes petites, très lourdes. Donc voilà, c'est vraiment c'est l'expérience qui permet de savoir comment manipuler.
Lorsque l'œuvre doit sortir du musée, quelles sont les différentes opérations que vous devez mener ?
Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles une œuvre sort du musée. Donc vous avez les expositions et vous avez aussi les restaurations. Et puis il y a aussi l'arrivée de l'œuvre au musée dans le cadre d'une acquisition. Quand c'est pour une restauration ou une acquisition, c'est pareil, c'est très simple. On voit avec le transporteur ou avec le vendeur. Il faut qu'on discute aussi avec le restaurateur. Il faut que le planning de tout le monde s'accorde. Moi, je supervise une équipe de 4 personnes, 4 agents techniques qui sont là pour refaire les salles. Ils ne font pas les expositions temporaires, mais ils font toutes les salles. Par exemple, en 2019, on a refait l'équivalent de la moitié du musée, complètement. On a vidé, sur les 52 salles, on a vidé la moitié du musée pour refaire les salles, les repeindre, les raccrocher, parce que tous nos conservateurs ont changé relativement récemment, mais du coup, ils ont voulu donner leur patte aux salles. Et donc, ils ont mis un certain temps à tout retravailler pour le mettre à leur image. Là, on est à peu près arrivé au moment qui leur convient, heureusement, parce que du coup, c'est vrai que c'était assez fatigant pour les... Enfin, c'est très intéressant, hein. Mais c'est quand même épuisant parce que physiquement, il faut ranger les œuvres en réserve. En fait, on a 11 000 œuvres dans le musée.
Oui.
Et on en a 1100 en salle, donc 10%. Et ça veut dire qu'on les fait tourner systématiquement. Et on a 200 prêts par an, à peu près. Donc, bah, du coup, on fait sortir les œuvres, mais il faut les remplacer dans les salles. Parce que ce sont les œuvres en salle qui partent en prêt, parce que ce sont les œuvres les plus importantes. Pas forcément les plus chères, mais... celles qui ont un intérêt vraiment historique. Donc c'est rare que ce soit. Ça peut arriver, parce qu'on a changé une salle, etc., changé une thématique, mais en général, ce sont les œuvres en salle, et donc il faut les remplacer. Mais quand on sort une œuvre de salle, ils n'ont pas juste envie de la remplacer par une copine qui est en réserve. En général, il faut, à minima, refaire le mur. Et dans le pire des cas, ce qui est bien aussi, mais c'est vrai qu'il faut vraiment l'anticiper, on refait toute la salle, voire les couloirs qui sont autour. Puisqu'il y a toute une logique dans la présentation, qui est aussi utilisé pour le service des publics, pour leurs visites. Quand vous faites une visite, enfin pour les tout petits publics, pour les publics d'adolescents, pour les publics de jeunes adultes, pour des publics plus spécifiques, tout le service des publics a des visites différentes, avec des œuvres différentes. Et donc à chaque fois, il faut essayer de trouver l'œuvre qui va remplacer. Donc après, si ça part en restauration, il faut qu'on s'arrange, donc qu'on prévienne le service des publics, évidemment, qu'on s'arrange avec le restaurateur, qu'on tombe... quand il faut, comme il faut. Là, par exemple, on a fait partir deux meubles en restauration à Marseille, chez un restaurateur. C'est mon équipe qui est partie, c'est deux personnes de mon équipe qui sont allées amener les meubles au restaurateur la semaine dernière et qui doivent aller les récupérer fin avril parce que ça va être présenté dans l'expo Gauffier. Donc, vous verrez deux petits mobiliers qui auront été restaurés juste pour l'exposition et c'est mon équipe qui est allée sur une journée apporter et qui retournera sur une journée chercher les œuvres. Mais quand on fait sortir aussi, il faut aussi assurer les œuvres. Parce que là, quand c'est chez nous, il n'y a pas de souci, les œuvres sont assurées. Mais du coup, il faut faire une demande spécifique à l'assureur en disant à telle date, dans tel cadre, avec tel véhicule, telle œuvre va sortir, va être amenée chez le restaurateur est assuré chez lui, etc. Donc ça, c'est pour une restauration, c'est relativement facile. Après, il y a les prêts. Donc, une exposition temporaire où on nous demande un de nos chefs-d'œuvre, ça va être le cas demain. On fait partir le Mon Voisin qui est en salle préau. Le service des publics l'utilise tout le temps. Donc, déjà, eux, ils ne sont pas très contents. Enfin, parce que c'est compliqué pour eux de la remplacer dans leur visite, ce qui est logique. Bon, ça fait quelques mois qu'on le sait, mais bon, ce n'est pas toujours évident. Et donc, ben, là, par exemple, moi, j'ai un 19 tonnes qui va arriver sur l'esplanade. Le problème du 19 tonnes, c'est qu'il est trop long. Donc, ben, je suis en discussion depuis hier avec la police municipale pour qu'il m'envoie une brigade motorisée. Donc il faut que j'explique au transporteur qu'il doit se garer sur le parking du Zénith demain, en début d'après-midi. Donc qui va venir, c'est juste pour amener la caisse. Et puis après, il reviendra pour chercher l'œuvre. C'est tout ça à mettre en place, parce qu'il faut que ça aille avec les horaires du musée, que ça aille avec les horaires de la police, qui a autre chose à faire aussi. C'est pas toujours évident. Le transporteur, il fait ce qu'il peut. En fait, son camion est tombé en panne vendredi dernier. Donc ben voilà, c'est de la logistique pure. Ils ont essayé de trouver un véhicule qui a la clim derrière. Parce qu'en fait, c'est pas la cabine qui est climatisée, c'est l'arrière, là où on met l'œuvre. Il faut toujours qu'on ait entre 19 et 20 degrés pour nos œuvres. Donc il y a la clim, il y a les suspensions. Ils sont géolocalisés, ils sont suivis à distance, parce que ben, on va éviter quand même de perdre un camion avec une œuvre d'art dedans, quelle qu'elle soit, c'est un peu fâcheux. Il y a une caisse qui aura été fabriquée exprès pour transporter ce tableau. Alors ça, après, des fois, ça peut être juste un tamponnage simple avec du papier bulle, du papier pour le protéger de la poussière, si ça ne va pas trop loin. Mais là, en l'occurrence, ça va dans un château, donc on fait quand même une jolie caisse, sachant que le tableau est grand, donc c'est une grosse caisse, ça veut dire qu'elle est lourde. Ça veut dire qu'il faut que l'équipe soit là à l'arrivée. Mon équipe pour aider les installateurs à déplacer l'œuvre. On est obligé de fermer la salle au public, parce qu'ils ne peuvent pas arriver à 8h du matin, justement, parce que ça demande trop de logistique en amont. Donc ils vont arriver l'après-midi, ça veut dire que temporairement, on va être obligé de fermer la salle, ce qu'on n'aime pas. En général, on essaie de la laisser au public. Et en amont, ça a été une négociation, parce que quand ils nous ont demandé le prêt de cette œuvre, le directeur ne voulait pas qu'elle parte. Parce qu'elle est fragile, qu'elle sert dans nos parcours. Et donc, ben, il n'était vraiment pas favorable. Mais il y a eu une négociation entre les deux établissements, les deux chefs d'établissement, pour justifier le fait que, ben, oui, en effet, c'était cette œuvre-là qui était nécessaire. Moi, je n'étais pas fan du tout, parce qu'on est limite en hauteur. Donc, ça veut dire beaucoup de stress au moment du transport. Ça se passe toujours bien, parce que c'est des personnes qui sont qualifiées. Nous, on a bien préparé en amont, etc. Mais avant de partir aussi, je fais un constat d'état. Donc, je note sur la photo de l'œuvre tout ce qui pourrait bouger, s'abîmer pendant le transport. Parce que là, pour le coup, c'est le château de Blois qui assure l'œuvre qui nous appartient. Et donc, ben, il va y avoir... le transporteur est censé bien faire son travail. C'est-à-dire qu'à l'arrivée au château de Blois, vendredi matin, quand j'ouvrirai la caisse, il faut vérifier que l'œuvre n'a pas bougé. Que le cadre n'a pas été abîmé. Si c'est le cas, ce n'est pas très grave, ça se reprend facilement. Il peut y avoir un coup. Voilà, le tout, c'est que ça n'attire pas le regard et que ça ne gêne pas la vision de l'œuvre. Et après, il faut vérifier qu'elle a été bien transportée dans les bonnes conditions, qu'il n'y a pas eu de choc de température, d'hygrométrie. Donc, je ferai ça à l'arrivée. Et puis, à la fin de l'exposition, il y a quelqu'un qui refera le constat. En général, on aime bien que ça soit le même convoyeur. On verra si c'est moi, parce que ça dépend. Peut-être que j'aurais pris des congés aussi. Voilà, j'ai une vie à côté. Et donc, on vérifiera que rien n'a bougé, parce que peut-être que le château de Blois, les conditions, à un moment donné, auront bougé ou quoi que ce soit. Et donc, l'œuvre aura peut-être elle-même bougé. Il n'y aura peut-être pas la même hygrométrie, donc humidité, pardon. Donc, voilà, c'est tout ça qu'on regardera. Probablement qu'il ne se passera rien. Sinon, il faudra qu'ils demandent à leur assureur de prendre en charge une restauration. Mais tout ça, ça ralentira la remise en salle chez nous. Et donc ça, on essaie d'éviter aussi, parce que du coup, c'est quand même 3, 4 mois, des fois 6 mois une exposition. Et donc c'est 6, 8 mois en tout, avec le temps de transport, pour que l'œuvre reprenne sa place. Et ce n'est pas évident, que ce soit pour les collègues du service du public ou même pour nous, parce que les œuvres qui vont remplacer cette œuvre en salle, peut-être qu'il va falloir qu'on les fasse partir à un autre moment quelque part, parce qu'elles ont elles-mêmes été demandées en prêt, etc. Donc voilà, c'est tout ça à préparer en amont. Mais c'est passionnant. Par contre, on ne s'ennuie jamais. La régie des œuvres, c'est... On sait comment commence la journée, on ne sait jamais comment elle finit. Souvent sur les rotules, mais bon, au moins, voilà. C'est chouette.
Merci pour cette interview.
Merci à vous.
Je vais vous parler d'un tableau qui a attiré mon attention lors de ma visite au musée Fabre. Il s'agit d'une œuvre de l'artiste Nicolas Poussin, intitulée « Vénus et Adonis, paysage de Grotta Ferrata ». Le tableau dont je vais vous parler a été peint en 1626 par Nicolas Poussin. Ce tableau représente Vénus et Adonis dans un paysage historique. On y voit des divinités à droite et à gauche du tableau se prélasser au soleil. Ce tableau a vécu séparé en deux parties, une grande partie de sa vie. Il a été coupé en deux au XVIIIe siècle et cela a été oublié pendant de nombreuses années. Il faut dire que les deux scènes semblent autonomes. À droite, on voit Vénus et Adonis s'embrasser avec des petits anges tout autour. Dans la partie gauche, on voit deux divinités assises par terre, près d'un ruisseau, et aussi quelques anges. Le tout dans un beau paysage. La partie droite du tableau était conservée au musée Fabre, alors que la partie gauche s'est retrouvée aux États-Unis jusqu'en 2008. Les deux parties ont pu être réunies en 2009 grâce aux recherches des conservateurs. Ces derniers avaient remarqué, lors d'une restauration, que le tableau contenait une inscription incomplète au dos. C'est ainsi que la recherche de l'autre moitié a débuté, pour finir par la réunification au sein du musée Fabre avec sa moitié pour 1,8 million.
Bonjour Monsieur Pierre Stepanov, vous êtes un conservateur des collections du 16e au 19e siècle ici au musée Fabre. En quoi consiste votre métier ?
Alors, bonjour et merci pour vos questions. Alors, mon métier consiste à beaucoup d'aspects, mais disons qu'il gravite vraiment autour des œuvres d'art qui sont conservées dans le musée. Et donc, ces œuvres, moi, mon rôle au musée, c'est de les étudier, hein, de connaître, d'essayer de trouver leur histoire, de savoir comment elles sont arrivées ici, quelles sont les péripéties qu'elles ont traversées. C'est de les étudier, de veiller à leur bon entretien, qu'elles soient en bon état, éventuellement de les restaurer avec des restaurateurs, parce que moi-même, je ne suis pas restaurateur. Et je dois veiller aussi à leur valorisation, c'est-à-dire que vous, visiteurs, eh bien, vous puissiez les voir dans de belles et bonnes conditions. Donc, je m'occupe de la manière dont elles vont être accrochées, dans quelle salle, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, des couleurs qui vont être choisies dans les salles, de l'éclairage, des textes qui accompagnent ces œuvres aussi. Vous savez, les cartels qui expliquent aux visiteurs. Donc, je suis un petit peu responsable de tout ça. Et puis, de temps en temps, eh bien, quand on accumule vraiment beaucoup de connaissances sur un sujet en particulier, on va faire une exposition où là, on va faire venir d'autres œuvres, d'autres musées qui vont dialoguer avec des œuvres de notre musée à nous pour, pendant 3 ou 4 mois, faire une présentation particulière avec beaucoup d'œuvres. Et souvent, ça, c'est accompagné aussi d'un catalogue. Et donc, une autre de mes missions, c'est d'organiser la production de ces catalogues, d'écrire dans ces catalogues, d'écrire des livres, des publications, des articles pour montrer un petit peu les nouvelles découvertes qu'on peut faire sur les œuvres d'art.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors, j'ai choisi ce métier d'une part parce que le musée en tant que tel, c'est un univers que j'aime beaucoup. Moi, quand j'étais enfant, quand j'avais votre âge, j'allais souvent au Louvre. J'aimais bien cet endroit, même si je comprenais pas tout ce que j'y voyais, j'aimais bien cet endroit parce que je trouvais ça assez assez magique, ce grand palais avec plein de belles choses, je trouvais ça formidable. Et donc, ça m'a donné envie de moi-même de pouvoir contribuer, de pouvoir travailler dans un établissement de ce type. Donc, j'aime bien travailler avec des œuvres. J'aime bien aussi l'échange avec les visiteurs. Je trouve ça très stimulant de voir un petit peu comment on peut leur apporter quelque chose, de voir comment on peut leur apprendre des choses, de voir eux-mêmes quels sont leurs ressentis. J'aime bien dans les musées aussi, vous savez, le mélange entre le sentiment, la sensation, le plaisir, donc des choses plutôt subjectives et personnelles. Et puis en même temps, la connaissance et le savoir, il y a des choses qui sont objectives. Et je trouve ça intéressant dans la discipline qui est l'histoire de l'art qu'on puisse mélanger un peu le plaisir et en même temps la connaissance. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, ce que je trouve stimulant, dans un musée, c'est la très grande multiplicité des missions. Il y a beaucoup de choses différentes à faire, je vous l'ai dit. Et donc, du coup, il y a une très grande multiplicité aussi d'agents, de personnes qui travaillent dans ce musée, qui ont des missions différentes. Et c'est très intéressant aussi de voir se confronter des logiques différentes. Chacun a sa tâche et c'est intéressant de voir un petit peu comment chacune de ces tâches se rencontre. Ça, c'est très stimulant aussi.
Quelles études ou formations avez-vous suivies ?
Moi, j'ai fait une prépa littéraire après le baccalauréat, donc où j'ai fait beaucoup de littérature, de philosophie, d'histoire, de latin. C'était assez difficile, mais bon. Donc après cette prépa, qui a duré 3 ans, j'ai fait un master de philosophie. Et quand je suis arrivé au terme de ce master, vous voyez, moi, je vous parle d'histoire de l'art depuis tout à l'heure, et je vous dis que j'ai fait de la philosophie, donc c'était pas forcément la voie naturelle. Quand j'ai terminé cette formation de philosophie, je me suis réorienté donc vers l'histoire de l'art, et j'ai préparé donc un concours qui permet de faire le métier que je fais, hein, le concours de conservateur que j'ai eu un an après. Et donc ensuite, j'ai suivi la formation qui permet de faire ce métier à l'Institut National du Patrimoine qui se trouve à Paris. Donc c'est une formation d'un an et demi. Et au terme de cette formation, donc, on peut postuler et travailler dans des musées en tant que conservateur.
Depuis combien d'années travaillez-vous au Musée Fabre de Montpellier ? Avez-vous travaillé dans un autre musée auparavant ?
Alors non, c'est mon premier poste. Hein. C'est depuis que j'ai fini ma formation, je ne travaille que ici. Je n'ai travaillé que ici. Et ça fait depuis l'extrême fin 2015, donc on va dire depuis 2016. Donc ça va faire 7 ans maintenant.
Comment choisissez-vous les œuvres à acquérir pour compléter votre collection ?
Multiplicité hein, de critères, hein, il y a plein de... Voilà, ce qui définit une opportunité. Alors d'abord, on ne choisit pas les choses de manière abstraite, hein, c'est le marché de l'art qui s'impose à nous. Hein, c'est-à-dire quand vous avez un tableau qui sort d'une propriété privée, d'un château, on ne sait jamais, en fait, dans 3 jours, il peut y avoir un tableau incroyable qui peut apparaître. Donc on ne sait jamais à l'avance tout ce qui va réapparaître, et je peux vous dire qu'il y a vraiment des choses extraordinaires qui apparaissent chaque année, des œuvres incroyables, qui font des prix énormes, hein, puis des œuvres qui sont à des prix plus modestes, mais qui sont tout aussi intéressantes. Hein. Je donne un exemple, par exemple, la semaine dernière, il y a un tableau de... Alors, c'était pas dans nos budgets. Il y a un tableau d'un peintre du XVIIIe siècle, hein, d'il y a 300 ans, qui s'appelle Chardin, qui peint un très beau tableau avec un bol avec des fraises. Ça s'est vendu 24 millions d'euros. Vous imaginez, c'est quand même incroyable, mais en même temps, bah, il y a deux bonhommes qui se sont battus l'un contre l'autre pour avoir ce tableau et ils étaient prêts à y mettre ce budget. Alors nous, c'est des budgets plus modestes, hein, mais quand même considérables, hein, puisqu'on a un budget de 400 000 euros qui est alloué par la métropole pour acheter des œuvres d'art. Alors comment se fait le choix ? D'abord, voilà, qu'est-ce qui est à disposition ? Qu'est-ce qui apparaît ? Ensuite, moi, ce que j'essaye de faire, plusieurs choses qui m'intéressent. Bon, ce que j'essaye de faire, déjà, je suis très attaché à respecter l'esprit de la collection tel qu'on le voit aujourd'hui pour les périodes qui me regardent. Donc, vous l'avez dit, hein, de la Renaissance au 19e siècle. Donc, je n'essaye pas, si vous voulez, d'acheter des types d'œuvres qui manquent à la collection. J'essaye plutôt de renforcer les points existants pour que le musée soit encore plus typé, encore plus spécifique. On essaye aussi beaucoup d'acheter des œuvres d'artistes qui sont nés à Montpellier et qui ont eu soit une grande carrière dans toute l'Europe, et il y en a, hein, c'est assez impressionnant le nombre de grands artistes qui sont nés dans cette ville, soit aussi d'artistes qui sont nés dans cette ville et qui y sont restés, qui ont eu un parcours artistique à Montpellier qui est aussi intéressant. Voilà, je suis attaché à ça. Et puis voilà, une fois que vous avez tous ces critères qui sont un peu abstraits, il faut voir aussi si l'œuvre, elle vous séduit quoi, en elle-même. Hein. Vous pouvez avoir une œuvre d'un artiste de chez vous qui est intéressante, mais... Voilà, vous vous dites, bon, c'est pas une œuvre hyper forte non plus, donc on va peut-être pas l'acheter, on va attendre peut-être quelque chose qui en plus soit très une image puissante, qui, vous voyez, quand vous baladez dans le musée, vous voyez le tableau, ah, vous vous arrêtez, parce que ce tableau-là, vous le trouvez très impressionnant. Voilà, on essaye aussi de choisir des images qui soient à la fois intéressantes à creuser pour les curieux, et qui en même temps attrapent tout de suite l'attention du visiteur pour les gens juste qui ont juste envie de prendre plaisir devant un beau tableau.
Quel est le mode d'acquisition que vous utilisez le plus souvent ?
Alors, ça c'est très facile à répondre, parce que ce que je vais vous décrire, c'est l'art atomique du marché de l'art. C'est la préemption, c'est un système qui permet d'acheter des œuvres. Alors tenez-vous bien, hein, c'est vraiment une prérogative de l'État incroyable. En fait, imaginez, voilà, vous avez, vous avez un tableau qui passe en vente. Vous avez 4 ou 5 personnes dans la salle, hein, des enchères, qui sont intéressées. Alors, ils enchérissent l'un contre l'autre, etc. Il y en a un premier qui abandonne, un autre qui abandonne, le prix monte. Finalement, il n'y en a plus que deux, ça continue à monter. Et puis, voilà, on va dire, je ne sais pas, à 15 000 euros, bah, voilà, celui qui était prêt à monter jusqu'à 15 000 l'emporte, puisque l'autre abandonne. Bon. Alors, moi, je n'interviens pas dans cette affaire, parce que j'ai un droit de préemption. Ça veut dire que je vais récupérer l'œuvre à la place de celui qui a gagné l'enchère, hein, au prix qu'il l'a emporté, donc je paye au même prix que lui, mais l'œuvre, elle va pour le musée et elle ne va pas pour le bonhomme. Donc je peux vous dire que ça fait... Souvent, les acheteurs sont écœurés, hein, parce que, voilà, on leur dit adjuger, hein, on tape avec le marteau, le commissaire-priseur tape avec le marteau et on leur dit, voilà, l'œuvre est pour vous, c'est adjuger. Et là, vous avez un type comme moi, vous voyez, qui casse tout, un conservateur qui dit, ah ben non, préemption pour le musée Fabre, et hop, l'œuvre, elle passe pour nous. Alors pourquoi j'utilise ce moyen, indépendamment pour embêter les acheteurs, ce qui est aussi très amusant. Surtout, en fait, vu que vous n'enchérissez pas, eh bien, du coup, c'est de la mécanique, hein, si vous voulez, c'est de la logique. Vu que vous n'enchérissez pas, l'œuvre, le prix de l'œuvre ne monte pas plus. Je vous le fais très simple. Admettons, voilà, vous avez deux gars qui enchérissent et on arrive à 10 000 euros. Il y en a un des deux qui l'emporte et moi, je préempte contre celui qui l'emporte. OK. Autre configuration, je préempte pas, je participe aux enchères. Un des deux, outre moi, abandonne à 10 000 euros. Et moi, je continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ça continue à monter, vous voyez ? Parce que peut-être que le gars qui est en face de moi, il est OK pour monter jusqu'à 25 000. Okay. Dans la configuration de la préemption, je n'enchéris pas, je me tais. Et une fois que c'est emporté, hop, je récupère le tableau. Donc ça permet d'économiser beaucoup d'argent. Hein. Donc c'est un système qui est extrêmement efficace et que j'utilise beaucoup. Voilà.
Est-ce vous qui avez demandé l'acquisition de la deuxième moitié du tableau Vénus et Adonis ?
Alors non, j'étais pas encore dans le musée en ce temps-là. C'est une acquisition qui s'est faite en 2010 ou 2012, j'ai un petit doute. En tout cas, je n'étais pas encore au musée. Mais je dois dire que si vous voulez une acquisition pareille, c'est génial pour un professionnel, hein, pour le directeur du musée qui a suivi ce sujet à cette époque-là. C'est tellement évident en fait, qu'il nous faut ce tableau. Là, vous n'avez même pas de choix à faire, quoi. 1,8 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire beaucoup de travail, hein. Il va falloir convaincre des gens, il ne suffit pas de réclamer le budget à la métropole, elle ne versera pas 1,8 million d'euros comme ça. Il faut trouver des mécènes, des gens qui ont envie de participer à cette aventure. Donc c'est du boulot, mais c'est tellement évident, si vous voulez, quand vous avez un tableau qui a été coupé en deux, que ce serait bien de racheter l'autre moitié, de recoudre tout ça. Que voilà, c'était un boulevard. C'était moi, de tout ce que j'ai vu en termes d'acquisition qui a été faite dans ce musée, c'était la plus évidente et la plus nécessaire.
Au musée Fabre, quelle est la collection qui a le plus du succès ?
Je dirais qu'il y a trois pans qui sont très appréciés par le public. Il y a d'une part l'ensemble d'œuvres de Pierre Soulages, qui attire beaucoup de visiteurs, qui apprécient ce peintre donc abstrait, hein, un peintre du XXe siècle qui est encore vivant aujourd'hui. C'est un artiste qui s'est constitué au fil des décennies quand même une très grosse renommée. Et on peut dire aujourd'hui que c'est vraiment le peintre du mouvement de l'abstraction qui est le plus célèbre en France, hein, vraiment. Et donc nous, on a la chance d'avoir un grand bloc de ces tableaux grâce à des achats et à des dons de cet artiste. D'autre part, si on revient davantage dans le passé, il y a deux autres blocs qui sont vraiment fameux au musée. C'est d'une part notre collection de peintures de Gustave Courbet, un artiste très 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 célèbre du XIXe siècle. Nous, on a un très bel ensemble d'une douzaine de peintures, ce qui est beaucoup, hein. Et puis également notre ensemble de peintures de Frédéric Bazille. Alors là, c'est encore une autre histoire, hein. C'est un très beau peintre qui n'a pas pu éclore comme il l'aurait dû. Il est mort à 28 ans, hein, à la guerre contre l'Allemagne en 71, excusez-moi. Et voilà. Alors là, c'est très particulier. Les visiteurs ont un rapport beaucoup plus intime avec lui parce qu'on sait que c'est un jeune homme, on sait qu'il est mort tragiquement, on sait qu'il est montpelliérain. Et donc, il y a vraiment un attachement plus intime du public par rapport à ce peintre qui a ses talents, ses fulgurances, mais ses maladresses aussi. Hein, c'était un débutant. Et donc là aussi, il y a un attachement sentimental assez fort des visiteurs qui sont souvent émus, en fait, par l'histoire de ce jeune homme.
Avez-vous participé à la scénographie de la dernière exposition du musée La Beauté en Partage ?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la scénographie. Vous avez visité cette exposition ? Vous l'avez visitée ?
Oui.
Ouais. Alors, c'est une scénographie qu'on a fait en interne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas sollicité d'architecte. Voilà, on l'a fait vraiment nous-mêmes. On a défini un peu, vous voyez, hein, comment on délimite les salles avec ces 6 mètres. Hein, vous avez vu ces grands murs, voilà, comme ça, qui sont modulables, en fait. Hein. Est-ce qu'on veut une salle plus ou moins grande ? Combien on en veut, est-ce qu'il nous faut 10 salles parce qu'on a 10 groupes d'œuvres à mettre ensemble, est-ce qu'il nous en faut 9, est-ce qu'il nous en faut 11, là c'est les questions qu'on se pose. Quelles couleurs on va choisir pour les murs, pour valoriser les œuvres, hein. Il y a des couleurs qui marchent mieux que d'autres avec certains tableaux plutôt que d'autres, donc c'est tout un monde qui est très stimulant, et j'espère que ça vous a plu.
Êtes-vous souvent commissaire d'exposition ?
Oui, c'est une part importante, effectivement, de mon métier. En fait, ce que j'essaye de faire, si vous voulez, c'est de me concentrer sur des sujets de recherche où je vais vraiment aller essayer de trouver des choses nouvelles. Et puis, quand on a suffisamment de contenu, eh ben, là, on va se dire, on peut faire une exposition. C'est-à-dire, on a des nouvelles choses à dire, on a des nouvelles connaissances, on va les publier. Et puis, on va faire venir quelques œuvres, ça et là, du... du reste du monde, hein, parfois de loin, hein, parfois des États-Unis. Pour l'exposition là, que je prépare pour cet été qui va ouvrir le 6 mai sur un peintre qui s'appelle Louis Gauffier, on va faire venir un tableau même d'Australie, voilà, ce qui représente un certain budget, je vous l'avoue, a fortiori depuis que le prix du pétrole augmente. Hein, voilà. Donc on est soumis à ça, évidemment. Donc ça m'arrive régulièrement d'être commissaire d'exposition, et je dois dire c'est un peu le moment qui cristallise le plus tous les efforts au-delà des missions quotidiennes du conservateur.
En général, comment les thèmes des expositions temporaires sont-ils choisis ?
Alors c'est une très bonne question. Il y a plusieurs approches. Moi, comme je vous le suggérais, j'aime bien choisir des thèmes qui ont un rapport avec la collection, c'est-à-dire avec les œuvres qui sont là en permanence. C'est-à-dire, voilà, on a des collections, ça se constitue par les hasards de l'histoire. Hein. Il y a quelqu'un qui donne ceci, il y a quelqu'un qui donne cela, voilà, bon, très bien. Et donc, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller creuser, par exemple, cet artiste, tel artiste, qui n'est pas très connu, vous voyez, mais dont on a, je ne sais pas, par exemple, 10 œuvres, hein, on a, je sais pas, 5 tableaux, 5 dessins de lui. Donc, on se dit, alors que finalement, c'est qui cet artiste ? Et on commence à creuser. On se rend compte, il est mort il y a 200 ans, il y a 300 ans, on se rend compte que de son vivant, il était hyper connu, en fait. Il était très célèbre, il y avait des articles de presse sur lui, il a appartenu à des collections de grands seigneurs, de grands amateurs, de grands personnages. Il a eu une vie trépidante, il a vécu dans différents pays, il a vu la guerre, il a vu des grands événements historiques. Bon, là, tout à coup, on se rend compte, c'est quand même hyper intéressant ce qu'il a vécu, ce bonhomme. Puis voilà, on se dit, dans ce musée-là, il y a un très beau tableau de lui, et puis ici aussi, puis ici aussi, et ici aussi. Donc on se dit, ce serait peut-être pas mal, en fait, de faire une exposition sur cet artiste. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'aime bien partir de la collection et essayer d'aller plus loin, de proposer une expo avec plus d'œuvres de cet artiste pour qu'après, dans la mémoire des visiteurs, des Montpelliérains qui sont venus, après avoir vu l'expo, ils disent « Ah oui, quand même, lui, c'est un artiste important, en fait. Hein. J'aurais pas cru. » Après l'expo, il y a un livre, il y a un catalogue. Donc, du coup, après, les gens qui s'intéressent à ça se disent « Ah maintenant, cet artiste, oui, en fait, il est très important. Et quand je m'intéresse à cette époque, il faut quand même que je consulte le livre sur cet artiste-là, parce qu'il a vécu en ce temps-là. Et si je ne consulte pas ce livre, j'ai une vision partielle de cette époque. » Donc, on fait avancer la connaissance. Et ça, j'aime bien parce qu'en fait, ça enrichit aussi le musée, ça valorise en fait les collections qu'il a et ça permet de réintroduire des artistes un peu oubliés dans la grande histoire de l'art. Vous savez, un exemple très caractéristique de ça, c'est Frédéric Bazille dont je vous parlais. C'est un artiste quand même considéré comme un peu mineur, comme un impressionniste, beaucoup moins important que son ami Monet. Et depuis que le musée Fabre a fait une exposition à son sujet et a fait des grands achats de tableaux, donc vous savez, un tableau qui est dans une collection privée, on ne le voit pas. Les gens, c'est comme s'il n'existait pas. Quand il est dans un musée, on peut le voir. Donc l'artiste existe dans l'espace public, en fait, pour ainsi dire. Donc depuis que le musée a acheté beaucoup de tableaux de cet artiste, depuis qu'il a fait une expo, qu'il y a un catalogue, je peux vous dire que l'artiste est maintenant beaucoup plus célèbre. Et ça se fait en 10 ans, en 15 ans, et on change en fait la vision des gens. Et donc ça, c'est vraiment bien.
En ce qui concerne l'organisation des expositions, combien de temps faut-il pour préparer une exposition temporaire ?
C'est très long, hein. C'est vraiment plus long qu'on le croit. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien asseoir un projet sur des recherches. Donc déjà, les recherches que vous faites, alors là, pour le coup, c'est vraiment le moment solitaire du conservateur par rapport à un projet d'expo. Et c'est vraiment le début, c'est-à-dire vous êtes seul, vous vous dites, est-ce qu'on peut faire un sujet là-dessus ? Est-ce que ça peut faire une expo ? Voilà, déjà, il faut se demander, est-ce que, on ne sait pas à l'avance si on peut faire une expo avec ce sujet ? Donc on va faire des recherches en bibliothèque, en archives, dans des centres de documentation. Vous avez des piles de photos. Et alors il est où ce tableau ? Vous cherchez une vieille photo d'il y a 100 ans d'un tableau, on ne sait pas où il est. Vous regardez la photo, ce tableau est quand même magnifique, ce serait bien de le retrouver. Vous commencez à pister le tableau et vous en retrouvez souvent. Puis au fil de plusieurs mois, de plusieurs années de recherche, vous dites là le sujet est prêt. Et donc à ce moment-là, on va enclencher les choses de manière plus technique. Avec toute l'équipe du musée, les gens qui s'occupent de l'organisation des expos, aussi bien d'un point de vue administratif, de la scénographie dont vous avez parlé, de la régie, donc comment on fait venir les œuvres, hein, il faut bien qu'elles viennent, il faut l'organiser ça, quel jour, à quelle heure, etc. etc. Le livre, faire le livre en fait, il faut trouver les photos, il faut commander les photos que vous reproduisez, il faut les commander à qui de droit. etc., etc. Donc là, c'est toute une industrie qui se met en place. Il faut envoyer des courriers aux musées à qui vous avez envie d'emprunter des tableaux. Vous vous doutez bien qu'on ne leur demande pas un mois avant. Il faut leur demander un an et demi, parfois 2 ans avant. Parce que quand vous demandez un tableau très important, parfois vous demandez 2 ans avant, vous dites « Ah, ben, il est déjà réservé. » Ah, bon, tant pis. Donc là, vous êtes dégoûté. Soit vous renoncez à votre tableau, soit vous déplacez votre expo à un autre moment. C'est tout le temps des choses comme ça. Donc, comme vous le voyez, voilà, ça met plusieurs années. Donc, on organise tout ça. Puis, à la fin, il y a le rush final, hein, où il faut terminer le catalogue, où c'est le cas en ce moment. Hein, la scénographie de la prochaine exposition est en train d'être construite. Ensuite, les peintres vont peindre les murs. Et ensuite, les œuvres vont arriver. On va les accrocher. Ça, c'est le moment final de la préparation de l'exposition. Donc, ça, c'est un moment très émouvant. Et puis après, il y a l'ouverture au public. Et là, c'est encore un autre moment. Voilà, on fait des visites. Le service des publics fait des visites, on fait des conférences, on accompagne les gens en fait dans leur appropriation de l'exposition pour qu'ils comprennent bien tout ce qu'on a eu envie de leur montrer. Et ça dure plusieurs mois aussi, ça dure le temps de l'exposition.
Quelle est votre œuvre préférée ici au Musée Fabre et sinon dans un autre musée français ou à l'étranger?
Alors, mon œuvre préférée au Musée Fabre, c'est hyper dur ce que vous me demandez. Mais je crois que l'œuvre qui m'impressionne le plus dans ce musée, bon, pour plusieurs raisons. Déjà parce que esthétiquement, elle est très belle et très étrange. Et aussi parce que historiquement, artistiquement, elle est très rare. Parce que c'est un artiste dont toute l'œuvre a presque été entièrement détruite. C'est un tableau qui s'appelle La Charité de Jean Cousin. C'est un tableau très étrange, très impressionnant, qui date du temps de François Ier. Donc vous voyez, ça a quand même, ça a 500 ans. C'est une peinture sur bois. Ça représente une femme nue, entourée d'enfants. Elle est en train d'allaiter un des enfants, il lui donne le sein. Et donc elle représente la charité, parce que c'est l'image un peu de la mère qui est entourée d'enfants et qui nourrit les petits-enfants. Mais ce qui est très, très bizarre dans ce tableau, c'est que cette femme, elle a une peau blanche, presque bleue. C'est super bizarre. Elle est devant un paysage, tout bleu aussi, très, très, très bizarre. Enfin, il y a quelque chose de bizarre dans ce tableau, et moi, dans l'art, j'adore le bizarre. Voilà. Et en plus, pardonnez-moi, c'est une œuvre. Voilà, sachez que ce peintre, qui s'appelle Jean Cousin, qui a eu une grande activité hein, de son vivant, on a conservé quand même que 2 tableaux de lui. Hein. C'est quand même pas beaucoup. Hein. Donc le fait d'en avoir un au Musée Fabre, bah, c'est formidable.
Merci beaucoup.
Mais merci à vous. Merci beaucoup.
Jeune reporter au musée. Un podcast réalisé par les premières maintenances et productions du lycée Pierre Mendès France à Montpellier.
Un projet proposé par le Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole et l'atelier Canopée 34 en partenariat avec le CLEMI et la DAC du rectorat de l'Académie de Montpellier.